Bonjour, ici Europe numéro 1.
Voici le deuxième épisode consacré à l'année 1958. Au menu, Américains et Soviétiques qui s'affrontent dans l'espace, Jacques Tati qui triomphe à Cannes, les Français qui découvrent le hula hoop et le chant des oiseaux qui ravit les auditeurs d'Europe numéro 1.
1958, on de la raconte sur Europe 1.
En 1958, en pleine guerre froide, les Américains et les Soviétiques se tirent la bourre pour la conquête de l'espace. L'année précédente, les Russes ont pris l'avantage en envoyant leur satellite Spoutnik avec à bord une chienne, Laïka. Et en ce mois de janvier 1958, une rumeur circule. Cette fois, les Russes auraient envoyé un homme dans l'espace.
Ici Jacques Tellier à New York, Europe numéro 1. À l'exception du New York Times, tous les journaux new-yorkais du matin portent en large manchette l'annonce du dernier succès soviétique. Un homme projeté à 300 km dans l'espace et revenant sur Terre, sain et sauf. La nouvelle parvenue ici dans l'après-midi d'hier n'a pas été officiellement confirmée. Tous les efforts dans ce sens sont jusqu'ici restés vains et le journal, le New York Times, parlant hier soir par téléphone à son correspondant de Moscou, n'a pu obtenir de détails supplémentaires, la conversation ayant été subitement interrompue par la censure soviétique.
Et en attendant d'avoir d'autres informations de la part de son correspondant à Moscou, Europe numéro 1 se tourne vers New York et son reporter qui est allé à la rencontre des Américains.
Do you think it's true? Pensez-vous que cette nouvelle soit vraie? Ces mêmes Américains qui, il y a quelques années, se refusaient à croire que les Russes possédaient la bombe atomique, admettent aujourd'hui, sans hésitation, l'annonce d'un succès soviétique dans une expérience que les savants américains eux-mêmes admettent difficile à concevoir.
Si les citoyens américains pensent que l'exploit soviétique est possible, les savants, eux, s'interrogent.
Eh bien, tout d'abord, l'homme qui a pris place dans cette fusée devait, à distance aucun doute, supporter un entraînement extrêmement sévère, ceci peut-être depuis 2 ou 3 ans. Car il fallait une certaine accoutumance de l'organisme pour supporter des accélérations élevées. J'entends par accélération élevée une accélération de 5 ou 6 G, c'est-à-dire que l'homme devait avoir l'impression de peser 5 ou 6 fois son propre corps, sans pour cela que sa respiration, ses fonctions organiques et son cœur puissent en souffrir.
Et si cette information se vérifie, cela voudrait dire que la conquête de la Lune et pour bientôt.
Les expériences de la chienne dans l'ambiance du satellite ont été extrêmement utiles pour cette expérience que nous vivons à l'heure actuelle. Et enfin, celle-ci elle-même servira d'une façon certaine pour les voyages interplanétaires. Nous sommes, je suis sûr, à la veille maintenant, et ce n'est plus une vue de l'esprit, du premier voyage dans la Lune.
Sitôt imaginé, sitôt réalisé, c'est en tout cas ce qu'affirme l'observatoire d'Oslo, en Norvège. Le 11 janvier 1958, des ingénieurs norvégiens ont cru voir une fusée soviétique se diriger vers la Lune.
Allô, allô, madame, je ne vous entends pas. Voudriez-vous recommencer, s'il vous plaît? Allô, vous me disiez, vous avez entendu la voix d'une fusée, mais vous ne savez pas encore ce que c'est. Pourtant, il semble, d'après les informations que nous avons reçues, qu'il s'agisse d'un appareil qui se dirige vers la Lune. C'est bien cela?
Oui, justement.
Et comment avez-vous pu déceler qu'il s'agissait d'un bip-bip qui se dirige vers la Lune?
Un de nos ingénieurs nous a dit qu'après ce qu'il a entendu, il le croit. C'est une théorie que nos ingénieurs ici ont pensé. Ce petit bip-bip qu'on a entendu, on l'entend tout le temps avec la même force.
Est-ce que vous continuez à l'entendre à l'heure actuelle?
Oui, tout le temps.
À la rédaction d'Europe numéro 1, on tente alors d'obtenir des informations de première main. Et on contacte l'Académie des sciences de Finlande, autre pays frontalier de l'URSS.
Nous avons reçu ce matin d'Helsinki une dépêche qui nous annonce que les savants soviétiques ont pu mettre au point une fusée qui était partie vers la Lune et que des signaux avait été capté depuis Helsinki d'un objet mystérieux qui devrait être cette fusée en route vers la Lune. Je voulais vous demander si de votre côté vous étiez au courant de cette affaire.
Je dois vous dire qu'il n'y a aucune nouvelle sur ce sujet. Je ne sais pas la source d'où la radio de Helsinki l'a pris, n'est-ce pas? Mais nous ne savons rien de ce sujet.
Rien, à votre avis, ne peut permettre d'affirmer...
Nous n'avons aucune information. Aucune. Oh non, monsieur. J'en sais rien, nous ne savons rien de cette nouvelle.
Eh bien, je vous remercie infiniment.
Quelques jours plus tard, l'Académie des sciences soviétiques dément. Mais en cette année 58, l'espace fascine et nombreux sont ceux qui croient voir des choses dans le ciel, comme ce Parisien.
Me trouvant en place du 11 novembre, vers 17h, j'ai vu une boule de feu de la grosseur de 2 points environ qui venait de l'ouest et qui a pris contact avec le sol à environ 5 mètres de moi, sur la place du 11 novembre. Moi, à ce moment-là, vous m'entendez, j'ai pas pensé au Spoutnik, comme il y en a qui en ont parlé, mais j'ai supposé à ce moment-là que c'était un météore qui était tombé, quoi. Je me suis précipité, et j'ai cherché si je pouvais trouver des restes de cette boule, qui, en tombant, a émis de nombreuses étincelles. Mais je n'ai rien trouvé. J'en ai parlé à une personne qui se trouvait là, elle me dit que j'avais eu des visions. Enfin, il y a l'épicier d'en face, M. Willmann, je crois, qui a eu soi-disant la même hallucination que moi, mais qui s'est précipité également et nous n'avons rien trouvé.
Réaction immédiate des Américains. Le 29 juillet 58, ils décident de créer la NASA. Et dans la foulée, au mois d'août, ils font décoller leur première fusée Pioneer. Mais malheureusement, elle explose à 15 km d'altitude. Eh bien, tant pis. Le 11 octobre, ils remettent ça avec une deuxième fusée Pioneer.
À Cap Canaveral, en Floride, ce matin à 4h42 heure américaine, 9h42 heure française, les forces américaines de l'air ont lancé une fusée Thor Able, destination la Lune. Nous nous transportons maintenant à Cap Canaveral, quelques secondes avant le lancement, dans le blockhouse d'observation, le reporter de la National Broadcasting Company communique.
3, 2, 1. T-minus 0, fire, there's blast off.
Les journalistes du monde entier se sont donné rendez-vous sous le soleil de Floride pour assister au décollage. Et bien entendu, le reporter d'Europe numéro 1 est là.
Ce matin, à 4h42, heure d'été de la côte Est, les forces de l'air ont lancé d'à Cap Canaveral en Floride leur seconde fusée, le Thor Able, qui est actuellement en route vers la Lune. Au départ, la fusée Lune s'enveloppa de feu et de fumée, tandis que 145 reporters regardaient. S'élevant de son pilier de feu, sans aucune déviation de l'angle prévu, la voix du formidable Thor Able ébranla maisons et fenêtres à 35 km à la ronde, réveillant la population entière des villes avoisinantes. La fusée s'éleva dans l'espace, illuminant le ciel avec une telle intensité qu'elle fut observée à Miami, distant de 320 km.
Mais quelques heures plus tard, Pioneer 1 rencontre un souci. La vitesse de la sonde pour échapper à la gravité de la Terre est insuffisante. Et donc, malgré un décollage et un vol réussi, Pioneer 1 ne peut pas atteindre la Lune.
Les journaux new-yorkais du dimanche paraissent sur une moyenne de plus de 200 pages. Ceux de ce matin chantent les louanges de la science américaine. Depuis hier soir, à 19h05, on sait officiellement que le Pioneer n'atteindra pas la Lune et qu'il deviendra très probablement un satellite de la Terre, satellite dont la durée pourrait devenir indéfinie, si l'allumage de la dernière partie de la fusée pouvait permettre de modifier l'orbite. Mais les Américains sont satisfaits. L'homme de la rue, sans s'intéresser aux détails, a appris que son pays a réalisé quelque chose que les Russes n'ont pas encore fait. Cela efface quelque peu l'affront du premier Spoutnik. Le président Eisenhower fut informé du lancement du Pioneer hier alors qu'il passait son week-end dans les montagnes du Maryland. C'est un grand jour pour les États-Unis et le monde libre.
Si Pioneer 1 n'a pas atteint la Lune, c'était pourtant bien parti.
On parle ce matin d'avenir. Les projets sont nombreux. Ils comprennent notamment le lancement de plusieurs fusées similaires aux Pioneer, équipées également de caméras de télévision.
une fusée qui atterrirait ou s'écraserait sur la Lune et y déposerait une certaine quantité d'instruments. Et enfin, l'envoi d'un homme. On procède actuellement aux États-Unis à de nombreuses expériences pour évaluer la résistance humaine dans les conditions d'un tel voyage. Le pionnier est un échec qui n'a jamais été autant glorifié et n'a jamais causé autant de satisfaction et de fierté dans l'opinion publique américaine. Ici Jacques Tellier à New York, Europe numéro 1.
À peine deux mois plus tard, galvanisé par ce qui semble être un exploit pour tous, les Américains font une nouvelle tentative. Le 6 décembre 58, c'est au tour de Pioneer 3 de décoller.
À minuit 45, heure de New York, 6h45 ce matin à Paris, une autre fusée quittait la plateforme de lancement à Cap Canaveral en Floride. Jay Barbary, le reporter de la NBC, est sur la plage et décrit la scène.
Here it comes. The Army's moon rocket is lighting the sky with a brilliance that can be seen hundreds of miles away.
Tout s'est passé normalement. Flammes et fumées tout d'abord enveloppent et cachent en partie les 30 mètres de la fusée. Celle-ci reste immobile pendant des secondes qui semblent des siècles, puis lentement, très lentement, elle s'élève droite, pointant vers le ciel de Floride. Les flammes de l'échappement, qui étaient d'un rouge sombre, sont maintenant orange. L'ascension s'accélère à une vitesse énorme. Le ciel entier semble illuminé. La gorge se serre, les nerfs sont tendus, et dans beaucoup d'esprits des spectateurs, un curieux mélange de fierté, de crainte et de doute se produit devant un tel spectacle. 110 secondes, le premier étage de la fusée vient de s'éteindre, il se détache et tombe à la mer. Tout semble normal, la fusée a maintenant disparu.
Mais ça n'est pas encore cette fois que les Américains verront la Lune.
Cette nuit, aux petites heures, on a appris rapidement que l'oiseau de l'armée, c'est ainsi qu'on nomme en termes familiers les satellites, que l'oiseau de l'armée n'avait pas la force nécessaire pour aller jusqu'à la Lune et même, comme il avait été prévu, pour la dépasser. Il y a quelques moments, le docteur von Braun, le grand patron du programme des satellites, ne paraissait pas extrêmement découragé de ce qui est considéré non pas comme un échec, mais comme un demi-succès. L'objectif du docteur von Braun était à la fois ambitieux et modeste. Il ne s'agissait pas de faire une photographie complète et détaillée de la Lune, mais simplement d'en prendre le maximum en allant au-delà de la Lune et placer le satellite dans l'orbite du Soleil. L'armée recommencera son essai. Celui-ci, en effet, n'était qu'une des deux tentatives autorisées par le président Eisenhower. Ici Jean-Pierre Sully, qui vous a parlé de Washington, Europe numéro 1.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu. Felice di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per me volare cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
C'était Domenico Modugno avec Volare. En cette année 58, cette chanson se classe troisième à l'Eurovision.
On de la traconte.
Christophe Ondelat.
En 1958, Jacques Tati présente son nouveau film à Cannes. Son titre, Mon oncle. Mon oncle a nécessité plus de 2 ans de travail. Et au festival où le film est présenté en compétition, Jacques Tati en explique les raisons.
Mais il y a 2 ans et demi, vous m'avez parlé d'un projet que vous aviez, d'un film que vous avez commencé qui s'appelait Mon oncle. Or ce film, vous le présentez maintenant au festival de Cannes où il représente la France. Vous avez donc mis un temps extrêmement long à faire ce film. Pourquoi travaillez-vous aussi lentement ?
Ben, moi, tout le monde trouve que je suis lent, mais enfin, c'est exact, certainement. Moi, je ne perds pas mon temps. Je prépare d'abord mon sujet et j'en fais un découpage assez soigné. Je cherche mes décors. Je cherche également mes interprètes dans la vie. Je n'ai pas une liste d'acteurs en me disant un tel fera le rôle du banquier. Alors tout ça prend évidemment beaucoup de temps. J'ai également travaillé la couleur. Je me suis donné le mal de raconter mon histoire en couleur, c'est-à-dire que la couleur ne vienne pas gêner le récit.
Et c'est là qu'on découvre quelque chose d'absolument inattendu. Figurez-vous que Jacques Tati a tourné ce film sans scénario sous les yeux. Il connaissait le scénario par cœur.
En général, quand on travaille longtemps sur un sujet, on finit par le prendre en grippe et même quelquefois par ne plus le voir du tout.
Non, non, non. Moi, je. Voyez-vous, c'est le contraire. Moi, je travaille bien quand je connais vraiment mon sujet par cœur, mes personnages, et même une chose qui peut peut-être vous intéresser, je finis même par le tourner sans scénario. Je n'ai pas de scénario, et pourtant tout a été préparé, parce que je connais justement mon sujet par cœur, et je sais que M. Harpel devra ouvrir la porte, et Mme Harpel devra lui répondre au côté.
Le film Mon oncle, de Tati, est une chronique de la vie moderne, de 58. Tati dénonce l'excès de confort, la monotonie, l'aseptisation, au détriment d'une fantaisie qu'il juge plus vivante.
Qui sont les Harpel ?
Alors les Harpel, c'est ça que vous voulez. Mais vous savez, ce qui est difficile, c'est de raconter dans le fond. Un film, on l'a fait, et je trouve que c'est assez dangereux de dire après, raconter l'histoire du film. Enfin.
Non, mais pas l'histoire, mais faites-nous comprendre quels sont ces personnages surtout. La famille Harpel est assez singulière.
Alors voilà, la famille Harpel, c'est une famille... dans les industriels, M. Harpel est industriel, et c'est le prototype de la réussite complète. C'est-à-dire les Harpel ont tout réussi, M. Harpel s'est fait construire une maison, une villa neuve, tout est neuf chez lui, ses costumes, sa maison, son jardin, son usine, l'école où va le petit Harpel, la route, tout est neuf. Et dans justement cet hiver ultra moderne, le fils Harpel, malgré tout ce confort merveilleux d'installation, Mme Harpel a une véritable usine à sa disposition, une petite industrie dans sa cuisine pour lui permettre de réaliser les soins ménagers. Et le fils Harpel s'ennuie.
Vous avez voulu opposer le monde standardisé au monde agréable et naturel de oui. Nos grands-pères.
Oui, alors quand on parle de message, c'est gênant parce qu'on a l'air de dire « Bon, vous êtes contre la construction d'une... » d'un immeuble, de loger les gens, c'est pas ça. Je trouve que on a enlevé dans beaucoup de cas énormément de gentillesse. Aujourd'hui, quand on parle de gentillesse, on parle, ça s'affrise un peu, si vous voulez, la bêtise. Un monsieur est bête parce qu'il est gentil. Je suis pas d'accord. Vous avez un tas d'exemples. Sur l'autobus, vous aviez cette petite plateforme au printemps qui était un petit salon de conversation, de discussion. L'employé avait sa personnalité, il avait une façon de tirer la chaînette, chacun avait la sienne, et même il y avait des codes avec 3 petits coups, il arrêtait l'autobus, et un autre coup, l'autobus repartait, et il avait un mot pour chacun. Une petite dame arrivait avec son chapeau, petit chapeau, c'est le printemps, et il lui parlait. Aujourd'hui, il est dans une cage de verre, on ne sait pas s'il donne un ticket à l'autobus ou une place de cinéma, vous comprenez, il n'y a plus de contact, on a fait des séparations sur... Je trouve que c'est grave.
Et on découvre à l'occasion de cette interview de Jacques Tati à Europe numéro 1 qu'il n'aime pas la modernité. C'est un réac, quoi.
Mais ce qui est dommage, c'est de tout supprimer, enfin tout casser. Quand je vois par exemple qu'on démolit tous les immeubles à Paris, je trouve ça grave. Je m'excuse, mais
Pendant l'occupation, tout le monde était inquiet à savoir si les Allemands n'allaient pas détruire Paris ou bombarder Paris avant de s'en aller. Et on est en train de faire ça avec une telle simplicité, une telle gentillesse, qu'on enlève tous les immeubles les uns après les autres. Je trouve ça important.
Il n'a pas tort. Il est vrai que cette année-là, 1958, à Paris, on détruit un bon nombre de bâtiments anciens.
Ces rues et ces bâtisses, dont l'âge se situe entre 200 et 300 ans, sont heureusement condamnées. L'aménagement de l'îlot numéro 13 va transformer un quartier vétuste de la capitale en le rendant à sa dignité de quartier d'action. Le premier coup de marteau a été donné, et bien donné. La technique est simple. Un trou dans le mur pour passer un câble, une fenêtre pour leur sortir. Et fixer un bulldozer. Moteur. Et l'élimination des vieux immeubles ne va pas traîner.
Et finalement, au Festival de Cannes, mon oncle remporte le prix spécial du jury. Et cette année-là, d'ailleurs, il remporte aussi l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant toi. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est droit.
Édith Piaf avec Mon manège à moi en 1958. Chanson qui a une drôle d'histoire parce que, au départ, elle a été écrite pour Piaf, qui n'en a pas voulu. Et donc, le compositeur l'a confié à Jacques Tati pour la bande-son du film Mon oncle, dont on vient de parler. Mais finalement, Édith Piaf, en réécoutant la musique, s'est ravisé et a récupéré in extremis la chanson.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
En 1958, une mode au nom rigolo débarque en France, le hula hoop. J'explique pour les minots. Le hula hoop consiste à maintenir un cerceau autour de sa taille grâce à un déhanchement plus ou moins maîtrisé.
Franchissant les océans, le virus du hula hoop a gagné aujourd'hui le monde entier. Il n'est guère de pays où la danse du cerceau ne possède ses enragés, voire ses artistes et ses champions nationaux comme en France.
Le hula hoop nous vient bien sûr des États-Unis, de marchands de jouets américains, qui se sont inspirés de cerceaux de bambou australiens et qui sont juste passés du bambou au plastique. Et c'est ainsi qu'une mode est née. En 1958, il se vend 4 millions de hula hoop dans le monde. Cette chanson de George Gibbs embraye sur le phénomène hula hoop. Et dans la foulée, elle est reprise en France, et en français, par Annie Cordy.
Un sorcier d'Haïti un jour inventa un cerceau enchanté pour les vahiner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous les pays, on s'amuse entre amis à ce petit jeu-ci. Hula hoop, hula hoop, qu'on se genouille, on crie hula hoop. Regardez-moi, imitez-moi, vous verrez qu'on peut maigrir en gardant le sourire.
Oula,
oula.
Fin 1958, les amateurs de cerceaux en plastique sont partout. Dans les écoles, dans la rue et toutes les générations s'y mettent.
Veille de Noël, premier jour des vacances, sur les trottoirs qui bordent les grands magasins, boulevard Haussmann, la foule est très dense, les enfants sont très nombreux, les parents aussi. L'armée du salut quête en agitant une clochette. À l'intérieur des magasins, il faut une minute pour faire 10 mètres. Tous les stands de jouets sont pris d'assaut. Et on annonce, madame, vous pouvez aller chercher votre enfant à la caisse, il vous attend. Est-ce que vous avez vu plus de monde que l'année dernière?
Énormément, monsieur. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé.
Et les gens vous ont donné l'impression de dépenser davantage que pour Noël 1957?
Ah oui. Vraiment.
Bon, je vous remercie. Qu'est-ce qui s'est le plus vendu?
Chez moi?
Ou bien dans l'ensemble des rayons de jouets. Quel est le jouet qui se vend le plus cette année?
Le plus cette année, c'est très bien dans les jouets de plastique pour les petits. Pour les petits, je parle. Le plastique.
Comme je vois que vous avez au-dessus de votre tête une auréole qui n'est rien d'autre qu'un hula hoop, je pense que...
Démontable, monsieur.
Démontable, vous avez dû en vendre beaucoup.
On n'arrête pas le progrès, énormément.
Merci.
La même année 1958, une autre mode déferle sur la France. Le Scooby-Doo.
Ah, bonjour mes enfants, vous avez des Scooby-Doo?
Oui!
Voyons. Je voudrais un renseignement. Qu'est-ce que c'est qu'un Scooby-Doo exactement?
Une fil électrique qui est très simple.
À quel moment vous les fabriquez ces Scooby-Doo? Silence.
En classe, parce qu'on fait le Noël des maîtres, alors ils nous laissent faire.
Ah oui.
Non, tu sois... rien.
Est-ce qu'on vous les confisque beaucoup?
Oui. Pas fou.
Ils vous les rendent ou pas?
Oui. Ils les rendent.
Attendez. Qu'est-ce que tu dis, toi?
Ils les rendent.
Ils les rendent.
Oui. Ils les rendent.
Attendez. Si vous parlez tous à la fois...
Il y a
des maîtres qui les mettent à leur clé.
Ces petits fils en plastique, et non électriques comme le pensaient les écoliers, fleurissent dans toutes les cours de récré. Et un petit business s'installe.
Et est-ce que il y a beaucoup d'élèves qui le font dans cette école-ci?
Oh oui, à peu près tous les élèves.
Et est-ce que vous le fabriquez pour vous amuser ou pour les vendre?
Ben, il y en a qui les fabriquent pour les vendre et d'autres pour s'amuser.
Et combien les vendent-ils?
50 francs.
C'est pour faire de l'argent de poche?
Bien sûr.
Et est-ce que vous avez souvent la visite d'enfants qui viennent chercher du fil pour faire...
Environ une dizaine par jour, ça dépend des jours.
Et ils prennent quoi exactement?
Ben, ils veulent toujours du fil de différentes teintes, qu'il soit vert, surtout rouge, noir à la rigueur. Enfin, le vert et le rouge, c'est ceux qui ont plus de chance.
Et alors, ils en prennent beaucoup?
Ben, évidemment, et comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils voudraient en prendre, enfin, on ne peut pas en vendre moins d'un mètre. Moi.
Ouais. Et combien vaut le mètre?
Ben, ça dépend, 35 à 40 francs, ça dépend de la section.
Ouais. C'est-à-dire qu'ils mettent à peu près 100 francs pour acheter?
Oh, même pas.
Même pas.
Quand ils ont mis 80 francs ou 70 francs, c'est un maximum. Voilà. Très rare ceux qui peuvent mettre plus.
Et alors, ils vous expliquent que c'est pour faire, pour fabriquer?
C'est-à-dire qu'ils ne l'expliquent pas, mais à force de les voir, on a tout de suite compris.
Et c'est là, en moyenne d'âge, les enfants de quel âge?
En moyenne d'âge, ça va chercher des fois même 6 ans jusqu'à 13 ans.
La rencontre en chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des
scooby-dooby-ooh.
Pommes, poires,
et des scooby-dooby-ooh.
D'après la légende, c'est Sacha Distel, donc, qu'on vient d'entendre, qui a inventé le mot Scooby-Doo en improvisant lors d'un concert donné au Casino d'Alger en décembre 1958. Il avait 5 minutes à combler et il s'est inspiré d'un scat de jazz, Scooby-Doo-Bidoo-Bidoo, pour compléter les paroles du refrain. Je vends des pommes, des poires et des Scooby-Doo-Bidoo. Et la chanson plaît. Et le mot Scooby-Doo désigne désormais les fils en plastique.
pomme,
pomme,
poire,
poire,
des
scooby-dooby-loo.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En 1958, Europe numéro 1 dépêche l'un de ses reporters à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour couvrir le gala des oiseaux.
Je me trouve devant un arbre sur lequel il y a quatre oiseaux, on dirait des gros perroquets au ventre rouge, jaune ou bleu. Ce sont des aras de l'Amazone que vous entendez crier. Continuons notre tour du monde des oiseaux à la volière centrale de l'exposition qui est en forme de pagode. Elle est en forme de pagode parce qu'elle contient à l'intérieur des rossignols du Japon et des cailles de Chine. Ce sont de très petits oiseaux, très élégants, très jolis, qui volent tout à travers leur cage et qui ont au milieu un bel arbre qui ressemble étrangement au cerisier du pays du sourire. Ils ont un regard très étonné, ils volent et ils s'amusent. J'espère que vous les entendez, leur chant est très gracieux, mais les rossignols du Japon et les cailles de Chine ne font pas partie des oiseaux les plus brillants de cette exposition.
Le journaliste va tout de même tenter une interview avec deux de ces oiseaux, Coco et Coquette.
Bonjour Coco. Coco. Et Coquette. Elle est jolie Coquette. Elle est jolie Coquette. Bonjour Coco. Eh bien, voyez, nous venons d'enregistrer un très court duo entre Coquette et Coco, qui sont deux perruches Grand Alexandre, originaires du Sénégal. C'est un couple délicieux, mais qui aujourd'hui n'avait pas beaucoup envie de parler.
C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Mais si ce gala des oiseaux offre aux visiteurs la possibilité de découvrir un nombre impressionnant d'espèces, on y élit aussi l'oiseau au chant le plus harmonieux. Et vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire de venir de contrées lointaines pour l'emporter.
Nous allons terminer notre visite au Paradis des Oiseaux par la grande vedette de ce festival, de ce gala des oiseaux, en rendant visite au rossignol parisien qui a enlevé le grand concours international de chant et que nous allons écouter. Nous regrettons évidemment que ce concert ait pu être troublé par les cris des aras qui sont peut-être jaloux de la belle voix du rossignol parisien, mais nous sommes quand même bien heureux que ce soit un rossignol parisien qui a enlevé ce concours international de chant de Pau. Ici Jacques Sudan qui vous a parlé de Pau au Gala des Oiseaux Europe numéro 1.
Eh oui, c'est le rossignol parisien qui a gagné le concours au La Plume. Mais en 1958, un autre oiseau s'apprête à lui voler la vedette. Son nom, Miss Tobby.
À l'aéroport de Nice, le courrier régulier de Londres était attendu cet après-midi avec un vif intérêt. Une voyageuse de marque avait en effet été signalée. Miss Tobby, car tel est son nom, est la fidèle compagne de l'ancien Premier ministre de Sa Gracieuse Majesté britannique, Sir Winston Churchill. Elle précède toujours de 24 heures l'homme d'État à l'occasion de ses déplacements. En vue d'éviter toute interprétation irrévérencieuse, je m'empresse de préciser que Miss Tobby est une perruche. C'est même la perruche favorite de Sir Winston, pour la bonne raison qu'il n'en possède pas d'autre.
Miss Tobby, la perruche de Winston Churchill, a les honneurs des médias. Mais, comme toute vedette de son rang, elle préfère cultiver le mystère.
Fidèle à une très ancienne tradition de discrétion diplomatique, elle s'est refusée à toute déclaration et n'a pas émis le moindre son. D'ailleurs, des précautions exceptionnelles avaient été prises en vue d'éviter la moindre indiscrétion. L'habitacle contenant Miss Tobby était recouvert d'une bâche qu'il n'a été possible d'entrouvrir qu'une fraction de seconde. Ce laps de temps a tout de même été suffisant pour constater que Miss Tobby a une robe verte agrémentée d'une tache jaune au niveau du cou. L'accompagnatrice de Miss Tobby s'appelle Miss Maturin, Miss Maturin si vous préférez. Elle a paru effrayée par l'intérêt suscité autour d'elle et a rapidement disparu, happée par une grosse voiture qui a pris aussitôt la direction de Roquebrune. C'est là que Sir Winston viendra les rejoindre dès demain, après avoir emprunté la même ligne aérienne. Il convient de signaler que par égard pour l'illustre visiteur, les douanes françaises n'ont pas appliqué le règlement qui n'autorise l'entrée sur le territoire des psittacidés, famille dont font partie les perruches, perroquets et autres volatiles du même genre, qu'après une série de fastidieuses formalités. Ces psittacidés transmettent en effet à l'homme, lorsqu'ils en sont atteints bien sûr, leur maladie spécifique, la psittacose. Mais la perruche de Sir Winston n'est pas une perruche comme les autres. Laquelle de ses semblables pourrait en effet prétendre mobiliser un bataillon de journalistes et de photographes attentifs à ses moindres gestes? On a tout de même encore en France le sens de la mesure et du ridicule. Ici Mario Benat qui vous a parlé de Nice, Europe numéro 1.
Simone en 1958 avec son standard My Baby Just Cares For Me. La suite de notre balade en 1958 dans le troisième épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.